L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Hector Sabot, bien connu aujourd'hui au cœur de la synagogue de Strasbourg, mais bien au-delà. C'est un musicien, pianiste, directeur musical, chef de chœur des polyphonies hébraïques de Strasbourg. Il en est le fondateur, mais aujourd'hui il vient nous parler d'un parcours qu'il raconte dans un livre qui s'appelle « La musique à quoi bon ? Récits et réflexions d'une vie de musicien ». Alors ce livre, évidemment, il va nous parler de son parcours de musicien, mais de son parcours de vie, et les deux sont très intimement liés. Alors, c'est en qualité d'auteur qu'il vient nous voir avec ce livre, son quatrième livre, Récits et réflexions d'une vie de musicien. C'est aux éditions Aide-Muse. Hector Sabot, bonjour.
Bonjour.
Quatrième livre déjà, donc aujourd'hui vous êtes auteur et musicien. Vous mettez une hiérarchie dans ces rôles-là dans votre vie ?
Oui, non, je suis toujours musicien avant tout et tous les jours, mais auteur, c'est devenu une habitude et un besoin. Et voilà, quand il y a quelque chose qui mijote dans la tête, j'ai besoin d'écrire. Et j'ai écrit et voilà, les autres livres suivront sans doute.
Alors c'est toujours effectivement lié à la musique, parce que la musique, c'est quelque chose qui vous habite, ça fait partie de vous, ça fait partie de votre... De votre être, de vos racines familiales. Déjà, c'est quelque chose que vous avez toujours connu. Et il y a eu un moment donné où vous vous êtes dit « je serai musicien professionnel ». Et c'était très très tôt, ça. C'est à quel âge ? À l'âge de 8 ans ?
Oui, non, je ne dirais pas à l'âge de 8 ans. J'ai appris que le métier de musicien existe vers l'âge des 14 ans. Et je pensais, avant les 14 ans, je pensais que musicien était un loisir. Je n'avais pas connaissance qu'il y avait des gens qui vivaient, qui gagnaient leur vie de la musique. À 14 ans, j'ai eu la chance d'être invité pour faire un stage d'été avec des jeunes un peu de mon âge et plus âgés. Et du coup, j'ai appris qu'il y avait des gens qui avaient un salaire. Et j'ai dit « Waouh !» Mais il fallait que je sois comptable, mais non, je vais peut-être réfléchir. Et puis, les expériences se sont enchaînées. Et je pense que vers l'âge de 14, 15 ans, 16 ans, quand j'ai vu que la comptabilité n'était pas aussi amusante et aussi satisfaisante que la musique, j'ai dit, bon, si je peux vivre de la musique, on y va.
Votre père, vous voyez, lui, comptable, il voulait un métier sérieux pour vous. Il a bien accepté le fait que vous preniez la voie de la musique, hein, qui vous a amené, alors on y reviendra un peu plus tard, jusqu'à de Buenos Aires en Argentine, jusqu'à Paris et puis à Strasbourg.
Hein. Oui, mon père, comme tous les parents juifs et autres, voulait que j'ai un avenir sûr, que je gagne bien ma vie, que j'ai un confort, etc. Et il n'avait aucune connaissance du métier de la musique. Il a appris presque en même temps que moi qu'on pouvait vivre de la musique, mais il y croyait pas trop. Il avait cette vision un peu juive du klezmer, du musicien ambulant, mendiant presque, misérable. Et il n'a pas arrêté de me dire « Mais tu vas pas devenir un klezmer ». J'ai dit « Non, papa, il y a la musique classique qui paye bien, t'inquiète pas ». Et puis, je n'ai pas trop réussi à le rassurer. Il a insisté pendant de longues années jusqu'à ma venue en France. Il disait encore, bah écoute, si ça marche pas, tu peux toujours venir avec moi au bureau. Et il y avait derrière ma mère qui me soutenait très très fort depuis tout petit et qui elle-même avait eu une éducation musicale mélomane, comment dirais-je, bien classique, hein, avec des parents qui s'étaient mariés à Moscou et qui allaient tous les dimanches au théâtre Bolchoï, aux séances gratuites pour les étudiants. Et donc, j'ai hérité d'un côté, ce côté classique, opéra, concert, etc. Mais du côté de mon père, il y avait, pas les klezmer, mais il y avait des chazanim. Son père était chazan, en Tchécoslovaquie d'abord, puis en Argentine, quand il a émigré dans les années 30, et dans les colonies du baron de Hirsch, au nord de Buenos Aires. Et puis, il était chazan partout. Il a même fait alia avec nous, la famille, au début des années 60. Il était chazan à Yafo, à côté de Tel Aviv. Et il est rentré en Argentine et il chantait toujours. Il n'a pas pu faire ses métiers à plein temps, comme il aurait souhaité, parce que les postes étaient rares et il y avait beaucoup plus de chazanim que de postes disponibles. C'est un peu le contraire qu'aujourd'hui.
Vous venez donc d'une famille pratiquante et la musique, non, pas du tout?
Non, mon grand-père était pratiquant, il était chazan, évidemment, il fallait qu'il respecte quelque chose, ou plus ou moins...
Mais toujours lié aujourd'hui avec la polyphénie hébraïque, ou évidemment les chants de synagogue, il y a toujours eu un lien, ce penchant pour le klezmer et les musiques en hébreu.
Voilà, non, le klezmer, c'était quelque chose de très, comment dirais-je... Pas plébiscité. Les gens prenaient le klezmer à l'époque comme musique de divertissement. On entendait dans les bar mitzvot, dans les mariages, on entendait du klezmer, mais jamais dans une salle de concert. Les klezmer en salle de concert, ça date d'il y a 20-30 ans maximum. Ça a été la mode, c'est une sorte de jazz juif actuel qui va piocher dans les racines du 18e, 19e siècle. Mais le klezmer, non, c'était pas... C'était la musique liturgique, surtout, qui était considérée comme une musique...
La grande musique.
Presque des concerts. Ouais. On assistait à des offices avec des grands cantors et des chœurs bien formés qui chantaient quelque chose qui ressemblait parfois à de l'opéra, avec un côté klezmer, mais avec une tradition bien, bien propre que je développe d'ailleurs dans tous mes livres. Et pourquoi la polyphonie hébraïque? Parce que d'un côté, je suis polyphonique par ma formation classique, mais hébraïque parce que j'ai vécu 3 ans et demi en Israël avec mes parents et j'ai hérité de cette tradition de la Chazanout qui m'a donné cette ouverture et qui fait que j'ai toujours rapproché toutes ces musiques dans un grand paquet sans distinction des genres.
Alors en Argentine, vous produisiez dans différentes formations, beaucoup de sollicitations. À quel moment vous êtes venu rejoindre la France? Alors c'est en 87, mais ça a été quoi l'impulsion? C'est de poursuivre des études, c'était des opportunités?
Oui, l'impulsion était que en Argentine, j'avais une belle position, j'étais bien inséré dans les réseaux de la musique classique, je faisais partie d'une troupe d'opéra, j'étais pianiste, chef de chant. Et j'ai joué beaucoup de musique classique. J'étais dans les circuits de la musique des chambres, théâtre Colón, etc. Mais je voyais que les plafonds étaient trop près et que je voulais aller plus loin, que je voulais faire mieux. La musique juive n'était pas du tout à l'époque une priorité. Je gagnais plus ou moins correctement ma vie d'étudiant pour financer mes études en dirigeant les chœurs dans les synagogues, en jouant dans les mariages, etc. Mais pas dans les fêtes des mariages, dans les cérémonies des mariages, j'étais à l'orgue. Et donc, je suis venu en Europe, en France surtout, pour la musique classique. Je voulais devenir musicien classique, chef d'orchestre, pianiste, etc. Et la France m'a attiré beaucoup parce que d'un côté, j'ai connu ma femme en Argentine qui est fille des Français. Et donc, elle m'a initié un peu à la culture française que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, venir découvrir dans les berceaux la musique de Ravel, Debussy et tous les autres, c'était une tentation très très forte. Et donc j'ai accédé à une bourse d'études du gouvernement français. Je suis venu avec cette bourse pour 9 mois. Et les 9 mois se sont transformés actuellement en 38 ans.
Vous êtes resté ici, vous avez établi votre vie ici, bon, à Paris au départ, à Strasbourg ensuite. C'est René Jasner, un feu René Jasner, qui est venu vous chercher.
Oui, tout à fait. C'était vraiment un hasard que je raconte dans tous mes livres d'ailleurs, parce que les hasards, il faut y croire, hein, parce qu'ils existent. Et effectivement, j'étais à Paris bien immergé dans mes études classiques, quand une professeure du conservatoire qui portait un Magen David m'a répondu le jour, juste une semaine avant les fêtes, j'ai dit « Madame, je vous souhaite Shana Tova ». Elle m'a regardé avec un beau sourire, m'a dit « Je ne suis pas juive ». Et j'ai dit « Excusez-moi, j'ai vu un Magen David dans votre cou ». Non, parce qu'il m'a été offert par Darius Milhaud, qui était un ami intime de mon mari, etc. Et donc, j'ai fait les liens entre la musique classique et les compositeurs juifs et tout ça. Et des bouches à oreille, Monsieur Jasner a appris, Chazan à l'époque...
De la grande synagogue ici à Strasbourg. Hein.
Voilà, il a appris que j'étais à Paris, que j'avais été... contacté par les gens du consistoire pour faire des remplacements, pour jouer des mariages, pour jouer des concerts. Et la musique juive est venue un peu vers moi, sans que j'aille vraiment la chercher. Et comme ça, il y a une fusion qui s'est faite entre classique et musique juive, qui a débouché dans la création des polyphonies hébraïques, quelques années après avoir m'être installé à Strasbourg, où j'étais actif pendant 18 ans, hein, comme chef de chœur ici même, à la Grande Synagogue. Et puis voilà, tout s'est fait assez naturellement et avec beaucoup d'enthousiasme toujours et beaucoup de volonté d'aller de l'avant, malgré les gens qui me disaient « mais tu ne vas pas y arriver ». Les polyphonies hébraïques fêtent en 2026, c'est 30 ans d'existence, qui est un ensemble choral qui est né à l'université. Et au temps où j'étais étudiant, justement, j'ai fait des recherches sur les polyphonies hébraïques, sur les archives de la grande communauté, avec toute l'information qu'il y a sur l'incursion de la musique classique dans la musique synagogale. Et voilà, tout ça, c'est ce qui m'a poussé un jour à dire « il faut que je raconte ça aux gens, parce que sinon, un tout petit peu, ça risque de se perdre ».
La musique que vous situez entre la philosophie et la science, un édifice immatériel, aujourd'hui entre les portées, les gammes, l'émotion aussi, j'imagine, et vous, cette musique qui a porté toute votre vie et votre famille et vos créations et votre vie professionnelle, ça représente quoi ? Alors, la question est vaste.
Ça représente tout simplement un mode de vie que je développe au jour le jour avec toujours des nouvelles idées, des nouveaux rapprochements. Depuis que j'écris des livres, je suis tout le temps invité à faire des conférences, et notamment à l'université où je vais faire une conférence le 16 décembre prochain dans le cadre des journées du livre, l'heure du livre au palais universitaire à 18h. Du coup, j'ai fait de la pub. Et je travaille beaucoup ces dernières années sur les croisements musicaux entre musique juive et musique non juive. Et j'adore ça parce que je n'arrête pas de découvrir chaque fois de nouveaux croisements. Et ces croisements sont importants aujourd'hui parce que les dialogues et la connaissance de l'autre me paraissent des éléments fondamentaux pour lutter contre l'antisémitisme, l'ignorance et la médisance des gens qui ne savent rien, qui disent tout et n'importe quoi. Et la musique, on dit qu'elle calme les bêtes, non ? Enfin,
adoucit les mœurs.
Adoucit les mœurs, voilà. Et je dis, si ça peut servir à calmer les gens qui disent n'importe quoi et apporter un peu de bonheur et des connaissances, j'y vais très fort.
Et comment est-ce que vous avez justement reçu, quand le philharmonique israélien s'est produit à Paris et qu'il y a eu des manifestations et des heurts assez violents.
Oui, oui.
Comment est-ce que vous entendez ça en tant que musicien, justement, avec ce langage universel ?
Oui, oui, j'étais choqué comme la grande majorité des gens. J'ai dit, quand on mélange tout, ça devient n'importe quoi. Et les gens qui veulent faire de la récupération, ils vont profiter de tout pour faire n'importe quoi, pour dire n'importe quoi. Ils ne connaissent pas l'histoire. Cet orchestre philharmonique d'Israël est une pure merveille, composée des rescapés, des persécutions de toute l'Europe, surtout de l'Allemagne nazie, avec un fondateur, un premier violon solo qui a connu Brahms, qui a créé le concerto de Brahms en Allemagne, parce qu'il était élève du dédicateur du concerto qui est tombé malade le jour de la création. Enfin, il y a tellement de belles anecdotes à raconter de cette intégration de juifs qui était tellement mal compris et qui a débouché justement à la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il faut mettre de la lumière, il faut éclairer tout ça. La musique européenne et la musique américaine aussi sont tellement imprégnées de notre culture ancestrale. Et c'est pour ça que je raconte tout ça dans mes livres. Et j'essaie de partager avec les lecteurs curieux et pour ouvrir les esprits et pour donner un peu d'apaisement. L'Orchestre Philharmonique d'Israël est une pure merveille de l'histoire musicale d'Occident. Et quand on lit un tout petit peu, on se rend compte que ceux qui la critiquent sont complètement à côté de la plaque.
Vous avez souffert, vous, aujourd'hui, d'invectives antisémites ?
Heureusement, non. Sur le plan personnel, j'ai eu la chance, pour l'instant, de ne pas avoir subi des violences, des agressions verbales ni autres, mais j'avance avec attention.
Alors ce livre, La musique, trois petits points. À quoi bon ? C'est un signe, enfin c'est un titre ironique.
Un tout petit peu ironique, c'est une question philosophique aussi que je pose à tous ceux qui ont un rapport avec la musique. Il y a des gens qui se baladent toute la journée avec des casques, qui écoutent des musiques de toute provenance, de tout style, de la pop, des musiques du monde. Et les gens sont très curieux grâce à ces fameux réseaux de distribution de musique. On écoute la musique tout le temps. Après, on fait le tri, il y a des sensibilités pour toutes les musiques. Les gens vont en voiture et tout le monde écoute la musique. Et il y a pour tous les goûts. Et moi, j'essaye d'attirer l'attention de mes lecteurs sur la sensibilité. La sensibilité, c'est quelque chose qui appartient à chacun, qui est subjectif, qui a à voir avec l'éducation, à quoi on a eu affaire quand on était petit, qu'est-ce qui nous a touché ou pas touché. Et donc, il y a plein de réflexions sur le phénomène musical, sur des questions que je me pose moi-même tous les jours. Et j'aime bien aussi rapprocher la notion d'humour. L'humour, c'est mon dernier chapitre. Et surtout l'humour juif, comme on peut le retrouver dans la musique, on va laisser les lecteurs découvrir tout cela. Les klezmers jouent un rôle aussi là-dedans. Et enfin, c'est un vaste sujet.
C'est un vaste sujet. J'invite évidemment nos auditeurs à se procurer ce livre, le quatrième d'Hector Sabot, La musique à quoi bon ? Récits et réflexions d'une vie de musicien, de mélomane également. Hein, ça, on l'entend bien. Alors, on va donner juste les endroits où ils peuvent trouver cet ouvrage. Alors, à la librairie Kléber, à la librairie du Cédra et également au magasin de musique Arpège Armand Meyer et à Paris, chez...
La librairie du musée d'art et d'histoire du judaïsme.
Du judaïsme, voilà. Merci Hector Sabot, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. On a presque l'impression l'expression elle n'est pas bonne, mais qu'on vous sous-exploite parce que vous êtes chercheur, vous êtes une mine de science dans le domaine de la musique. On va bien au-delà de l'art. Et puis évidemment, moi je vous invite à venir faire une fois une émission sur nos ondes parce que vous avez tant à partager et à donner. Et on souhaite évidemment que ça continue comme ça encore longtemps. Et vous êtes évidemment toujours le bienvenu sur nos ondes et vos prochains écrits tout autant. Merci à vous.
Merci de votre invitation.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.